Rien, haut et donc, il y avait une lumière supérieure. C'est le mot le plus difficile à expliquer ici, c'est rayon supérieur. Y a-t-il lumière supérieure, lumière inférieure? Nous verrons dans la suite. Mais je vais essayer tout de suite d'expliquer le mot Pashut qui signifie simple. Alors, notre définition philosophique simple, c'était le contraire de la complexité, un être élémentaire dans le sens élémentaire du terme, tout entier élément simple. Et j'ai entendu une fois, il y a très longtemps, M. Levinas dire, pour la pensée humaine, c'est plus difficile de penser le simple que de penser le complexe. C'est pourquoi les philosophes sont si compliqués. Et effectivement, c'est très difficile de penser le simple. Dans le sens hébreu, pshitut, pashut. Vous voyez pourquoi les exégètes sont obsédés par le pshat. Et par la traduction simple. Quel est le sens simple d'abord? C'est le sens vrai. Et ici, dans notre contexte, nous verrons. Pashut, ça voudrait dire donc au-delà, plus haut, antérieur, à cette complexité entre être venant de l'air et être venant du nez. C'est-à-dire cette dualité de manière d'être qui est entre les nez, Tsalum et les Nivaïm, il y a un niveau où il n'existe pas, et qui s'appelle Pashut. C'est simple, le jeu. Okay. Et plus encore, et là, j'emprunte le vocabulaire précis, plus précis du Rabbi Shlag, qui est le commentateur que vous avez sous les yeux, puisque la citation de l'Israël que je vous ai donnée, c'est celle du Talmud Esser Sfirot du Rav Ashlag. C'est que, il y a d'une part l'être qui donne l'être, l'être dont tout l'être consiste à donner l'être, et qui finalement se fait présent dans le monde sous forme de lumière, dans le texte, comme vous faites, et l'être qui reçoit l'être, l'être dont tout l'être consiste à être l'être qui reçoit l'être. Le réverse est compliqué, c'est très simple. Hein, qui s'appelle créature, et dont l'être, dont la manière d'être est premièrement chaos, néant, obscurité, et appel de lumière. C'est le récit biblique. C'est bien clair. Donc, plus haut que cette différence, il y a un stade supérieur de la lumière qui s'appelle simple. Et où, en principe, là je continue encore dans le vocabulaire du Rabbi Shlag, en principe, donner, recevoir, sont le même geste d'être, ce qui dans notre monde est radicalement différent. Est-ce que c'est clair jusque-là, si vous avez une question, ou si vous voulez qu'on avance en tête. Voilà pour l'élucidation de la formule, en tout cas au début. Da ki terem shenetzlu anetzalim benivrei vanivraim haya o enyon pashut memalei kol hametziut. Ce que maintenant nous appelons l'existence, metziut. Vous avez retenu déjà qu'il y a différence de vocabulaire en hébreu et en français entre existence, metziut, et être, havaya. Alors, lorsque la havaya s'est faite existante, elle s'est faite lumière. Et lorsque le néant se fait existant, il se fait monde, si j'ose dire. Okay. C'est dehors la route. Et il y a donc ce que nous appelons maintenant l'existence, les quatre mondes qui sont cinq, avant que n'ont été émanés les êtres émanés, créés les êtres créés, hors Kéli, présence et véhicule de présence, et une lumière simple, une lumière supérieure simple, emplissait tout ce que nous appelons existence. C'est-à-dire les quatre pour la mort et le cinquième qui les unifie. Je n'ai pas encore parlé des sphirotes, parce que le vocabulaire que j'aimerais, il y aurait trop de vocabulaire à la fois, pour le moment nous suivons le vocabulaire qui est employé par le Ari ici. Alors, une minute, je lis la phrase suivante, et ensuite on reviendra sur l'ensemble des deux. Je continue, et vous allez tourner la page assez rapidement. Velohaya shum makom panui, et il n'y avait aucun endroit vide, vitrinat, à la manière d'être de avir et panui, atmosphère vide, le halal est vide, absolu. Et là, il y a un col, mais tout est fait, même on est rempli, mais oh, ensof, pashut, de la lumière de l'infini simple dont on a parlé. Vous avez senti qu'il y a quelque chose qui a changé dans l'expression? Oui. Dans la deuxième expression, le lohaya, et là, il y a la colle, mais vous les mine, au rezzo, machutaou. Je vais rajouter un mot. L'expression précédente, c'était tout ce que nous appelons maintenant existence était au helio, machutaou. Était lumière supérieure sainte. Et maintenant, en revenant apparemment sur la même idée, il dit tout était empli de la lumière de Enzo, de l'infini simple, simple pas sur lumière, pas sur l'infini, dont nous avons parlé. Ah, celui-là. L'expression a changé. Donc il y a encore un niveau supplémentaire. Voilà. Vélo, ensuite, je lis la phrase, mais peut-être qu'on n'ira pas aujourd'hui. Vélo et allo, et il n'y avait l'obéchinat roche, ou l'obéchinat sauf, ni manière d'être qu'on appelle commencement, ni manière d'être qu'on appelle fin, et la racolaya, orechat pachout, encore l'expression a changé, mais tout était une seule lumière simple, chavé vejra ahat, égale d'une unique égalité, beunikra orezzo, et c'est lui qu'on appelle, c'est elle, la lumière qu'on appelle, la lumière de l'infini. Bon, la fin est un peu plus difficile, si vous voulez, parce que beaucoup de nuances s'introduisent, mais l'idée globale, c'est que, je vous rends au début, avant que le clivage des différents mondes que nous appelons nos mondes de notre existence n'existe, il n'y avait qu'une lumière simple qui emplissait tout ce que nous appelons existence, et nous sommes donnés toute une série de termes qui apparemment risquent d'être pris comme des répétitions, pléonasmes de situations littéraires, d'images différentes pour dire la même chose, mais qui en réalité situent des niveaux d'être radicalement différents. Je continue la traduction simple, avant de revenir à l'étude. Le kacher à la gestion à Pachout, encore pas. Et lorsque cela est monté dans sa volonté simple, lorsque le vouloir a voulu vouloir simplement ceci, libro à la mode, de créer les mondes, le Hatzilané et Tsalim, et d'émaner les êtres émanés, remarquez tout de suite la différence d'ordre. Okay? Les Hotzilaor, Shlemut Perolota, pour faire apparaître, littéralement, pour faire sortir à la lumière, pour faire apparaître la perfection de ses actes, Kushmota, de ses noms, Vikinia, de ses attributs, Asherzot, Aïta, Sibad, Briat, Orlamot, car c'est là qu'est la cause, non pas la raison, mais la cause de la création des mondes. Vikinia, Az, alors, Tintse, et Atzmo, et Sot, l'infini a contracté son essence, son lui-même, si j'ose dire, Binkuda et Zait, dans le point central, Asherbo, Be'etzar Mamash, qui se trouve en lui au milieu, vraiment, vraiment au milieu, Be'etzilzemao Aoral. Il a contracté cette lumière, Benitrachek et Sidade Silotanikuda à Etzar. Et cette lumière s'est écartée, dilatée en même temps, mais écartée vers l'entour, ce qui entoure le point central. Vous suivez déjà l'image, purement et simplement, nous reviendrons sur le verbe. Vera, Nisha, et alors est resté, comme résultat de cette rétractation, contractation, alors est resté, ma compagnie, un endroit disponible, un endroit vide, vers vide, et une atmosphère, mais halal ritani, et un vide vide. On va traduire autrement, vous voyez que l'expression a changé. Plus haut, c'était avir et tani et halal, et maintenant c'est avir et halal et tani. Je retraduis tout cela. Min kuda al-tsaï mamash, à partir de ce point central mamash, vraiment, vene atimsu nazé. Et voici que cette rétractation, aya berjwa acha, était dans une seule égalité. Bisvivo Tanekuda Enzaï, autour du point central, avec Anitaï, du vide dont nous avons parlé, Beofel, Beofan, chez Makom et Chalalaou, de telle sorte que l'endroit de ce vide, Ayahagou, était sphérique, Nikol Suvota, dans toutes ces dimensions, Vyasa Gaura en égalité absolue. Venohaya et il n'y avait Vituna, aucune forme Meruba de cube, Baal Zavio et Tzavot, c'est vous avez un singulier ou un pluriel. Qui posséderait une arête aiguë, les filles, car chez Gamenso, Sintsem Atmo, Biprinat Agou, car l'infini lui-même s'est réformé dans la forme d'une sphère. Béhachva Ahat, Mikolat Dali, en égalité unique de tous côtés. Je finis encore la dernière phrase. La Siva Ahita, et la cause en était. Les filles, que chez Kiva, chez Orenso, Chavé, Beachva, Gomorra, puisque la lumière de l'infini est égale en égalité absolue, et vous avez déjà une équivalence de la notion de Pashut simple. Pashut est Chavé, Beachva, Achat, c'est-à-dire homogène dans le sens philosophique du terme. Beachva, Gomorra, en égalité absolue, pour Rach Gamken, il était donc nécessaire. Dans le sens logique du terme nécessaire, chez Tzamtzem Asmo Vehashva Achat, qui rétracte son essence en égalité une, Mikolas Dadim, de tous les côtés, Velo chez Tzamtzem Asmo Mitzadecha Dioter Mishar Dadim, et non pas qu'il rétracte son essence un côté plus que les autres côtés. Jusque-là, on se demandera pourquoi cette accumulation de détails apparemment inutile, pourquoi il est nécessaire de savoir que le résultat de cette rétractation première pour laisser place au monde futur et à venir, au monde à venir, devait être sphérique absolument. Et cette explication que la procède du fait que la substance de la lumière simple originelle était simple absolument, et que donc le tzimtzum, rétractation, s'est fait en égalité de côté partout à la fois, pourquoi cette accumulation d'insistance Et ensuite, Venoda, Berchoman Hashiur. Et vous avez une phrase qui traduit la propre du triangle, du carré ou du rectangle, qui se réfère à des notions mathématiques de chaque temps. Donc, ce que nous avons, et ce que nous avons déjà élucidé, c'est une première question. Okay. Que signifient ces niveaux d'être, puisque j'ai employé ce vocabulaire? Et l'intérêt de l'étude, c'est bien évidemment de le suivre dans les nuances et les changements d'expression que le texte comporte. Le premier principe étant que cette notion de tzimtzum est préalable, est indispensable pour comprendre la notion de création. Je reviendrai beaucoup plus en détail de façon diluée ce soir, mais pour en dire l'essentiel maintenant. C'est mon premier propos de cette étude. La notion de création, telle qu'elle est véhiculée par la pensée philosophique, lorsque c'est la pensée philosophique qui sous-tend le discours théologique, est une notion incompréhensible. Elle ne devient compréhensible que par une inversion des coordonnées que nous permet le discours kabbaliste, et je m'explique. La notion de création, dans son sens philosophique, c'est l'être à partir du néant. Elle ne peut être qu'objet de foi pour la pensée humaine. Parce que elle enveloppe une contradiction logique qui est impossible de contourner. Et donc là, nous arrivons peut-être à une sorte de paradoxe sur lequel je reviendrai ce soir. C'est que ce qui se présente à travers le discours philosophique comme étant de pensée rationnelle ou rationaliste sont en réalité des hommes de foi, puisqu'ils ont pour objet de leur discours une notion rebelle à la compréhension rationnelle. Inversement, les kabbalistes qui vont littéralement inverser les données du problème et substituer à la notion de création à partir du néant une notion antérieure qui est création du néant à partir de l'être, eux vont se présenter comme des hommes de connaissance. Parce que le contenu de leur discours est homogène aux lois de la raison humaine. Alors que le contenu du discours philosophique sur la création n'est pas homogène à la raison humaine. Et c'est un peu ce espèce de scandale intellectuel qui sera le premier sujet sur lequel nous allons réfléchir. Et J'ai mis très très longtemps à me rendre compte que ça pouvait être formulé de façon aussi simple. Mais qu'il y avait là un véritable scandale d'inversion des données de l'enseignement de la Torah, de l'enseignement de la Bible. Et lorsque c'est le discours philosophique qui s'est emparé du discours biblique, on a réputé mystique, on a donné la réputation de mystique au discours kabbaliste qui restait fidèle au discours biblique, et rationaliste au discours philosophique qui a rendu la Bible incompréhensible et athée. Alors nous allons y revenir assez en détail, parce que c'est l'objet de l'étude. Mais j'aimerais bien que vous me disiez maintenant, nous avons 5 minutes de l'Arsaka, j'étais averti par votre cassette, elle est à l'heure. Quelles sont les questions qui se posent à nous, très rapidement, sur ce que nous avons traduit? Et ce que je vous propose, c'est de commencer, bien évidemment, à étudier la différence de vocabulaire que nous avons lue entre le discours kabbaliste et le discours philosophique. Voilà pourquoi. Quel menu, toi qui es le deuxième, quel?
On arrive toujours à cette même difficulté, savoir d'où vient cette lumière sainte, supérieure, précédée.
Alors écoutez,
on arrive toujours à cette difficulté rationnelle, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'une création à partir de rien, et s'il y avait quelque chose, donc ça précédait, on arrive
Écoutez, nous allons essayer de raisonner simplement. J'allais dire purement et simplement. J'étais beaucoup aidé pour l'élucidation en français, parce qu'en hébreu, c'est pas difficile, en hébreu, c'est très simple. Mais en français, c'est très difficile à exprimer, parce que le français, comme vous le savez, est handicapé par énormément d'implications de l'histoire de la philosophie, dans les langues de la pensée et dans les langues que l'on emploie. Il y a dans notre monde du il y a. Il y a dans notre monde de la lumière. Il y a dans notre monde de l'être. Quel que soit le niveau de sérieux que l'on accorde à l'être qu'il y a, que il y a. Et je vais vous proposer d'abord un raisonnement par induction qui consiste à remonter des conséquences au principe, et ensuite nous pourrons mieux opérer par déduction, ce qui est la méthode du discours kabbaliste. Il est déductif, beaucoup plus qu'inductif, mais on pressent qu'il y a des inductions préalables qui sont nécessaires. La notion de l'être à partir du néant est incompréhensible. Alors que la notion du néant à partir de l'être, elle, est homogène à la pensée humaine. Et maintenant, je vais analyser un peu cela pour pouvoir répondre à votre question. Et peut-être aussi indiquer les implications d'athéisme qui nous empêchent de lire le texte simple comme il est dit. Il faut qu'on a peur qu'il y ait un antérieur. Parce que s'il y a un antérieur, il y a peut-être autre. Et s'il y a autre, il y a peut-être une loi. Alors on a peur de tout ça. Je regardais dans tous ces problèmes, surtout ce soir, mais déjà dans le raisonnement de ce matin. Nous n'avons pas expérience de l'être apparaissant du néant. Ce que je dis là n'est qu'une apparence, mais je parle du discours philosophique. Alors que nous avons expérience du néant anéantisant l'être. Je m'explique tout de suite. Nous avons l'expérience de la mort. Il y avait une présence et disparaît. Donc nous avons l'expérience du néantissement, de l'être qui devient néant. J'ai dit tout à l'heure que nous n'avions pas expérience de l'apparence de l'être à partir du néant, Pasteur. Okay, il n'y a pas de génération spontanée. C'est tout simplement parce que nous avons oublié de comprendre qu'est-ce que c'est que la naissance d'un enfant. Nous avons aussi cette expérience, mais on fait comme si on ne l'a pas. Alors je vais faire comme le philosophe, comme si on ne l'avait pas. Et donc, nous avons appui dans l'expérience à la notion du néant néantisant l'être. C'est bien clair ? C'est plus homogène à l'état actuel de la rationalité que la notion inverse de l'être à partir du néant. Je crois que c'est suffisamment. Or, c'est de là que parle le discours kabbaliste. Ce qui est premier, ce n'est pas le néant, c'est l'être.
Alors, les scientifiques acceptent aussi cette notion de quelque chose qui a précédé les mondes, que ce soit les molécules, la lumière, quelque chose, ils sont d'accord alors. Franchement d'accord.
Ça serait très bien pour eux.
Non, non, mais cette notion existe chez tous les scientifiques.
Oui. Alors, revenons au discours philosophique. Lorsque le discours philosophique, ou d'allure philosophique, utilise cette notion de création, il utilise dans la catégorie l'être apparaissant à partir du néant. Nous allons voir que le discours kabbaliste le récupère, mais après. Alors, ce que je voulais mettre en évidence, c'est qu'une telle notion est rebelle aux lois de la raison. Parce que la raison humaine, la pensée humaine, le CFL, fonctionne d'après le principe d'identité. Or, il y a une contradiction radicale au principe d'identité dans cette notion ex nihilo. Parce que, comme disaient les latins, ex nihilo nihil. Un point. Okay. Donc, c'est bon. Alors, le discours kabbaliste, s'appuyant sur le sens hébreu de l'hébreu biblique, nous dit qu'il y a une notion préalable. Il y a d'abord le fait que, d'une certaine manière, le néant vient de l'être, et c'est dans ce néant qui vient de l'être que l'être de notre monde peut être logé. Deuxième raisonnement. Si Dieu est, il est tout. Par conséquent, il n'y a pas de place pour le monde. Donc l'existence du monde est en question dans la pensée de la Kabbalah. La philosophie a pour question obsessionnelle l'existence de l'homme. À quelles conditions l'idée d'homme doit répondre pour que l'homme existe? Ça, c'est toute la philosophie. Vous avez par exemple l'effort considérable de simplification du problème qu'a donné Descartes, qui doit céder par cette question. Comment démontrer que je suis? Finalement, une idée géniale, je pense donc je suis. Ça le rassure. La théologie, elle, est obsédée par l'idée de Dieu. À quelles conditions l'idée de Dieu va répondre pour que Dieu existe? Et de ce point de vue-là, la théologie, c'est encore la philosophie. La Kabbalah commence son discours au-delà. L'homme existe, Dieu existe, on y reviendra. La vraie question pour la Kabbalah, c'est comment se fait-il qu'un monde existe? Parce que si Dieu existe, il est tout, il n'y a pas de place pour le monde. D'où risque de basculation dans le panthéisme. Tu verrais qu'il s'agit d'un philosophe à sentiment religieux, il devient panthéiste. Et puis inversement, vous avez à ce niveau-là la philosophie idéaliste. Je vais citer simplement Berkeley, que je connais le mieux. Si l'homme existe, tout n'est que représentation de l'homme. Il est tout. Est-ce que c'est clair pour les philosophes? Par conséquent, la vraie préoccupation de la Kabbalah, c'est pas Dieu, ça va de soi. C'est pas l'homme, ça va de soi. Ce n'est pas des questions pour un kabbaliste, c'est le monde d'où ça sort. Comment c'est possible? Et c'est la préoccupation du discours biblique, qui ne vient pas instaurer l'idée de Dieu, l'idée de l'homme, mais qui instaure l'idée du monde. Bereshit, Bara Elohim, et Tzadon Etage. Elle est censée parler à un homme qui sait ce que c'est qu'un homme, et qui sait aussi ce que c'est que Dieu, puisque la Bible n'explique pas ni ce que c'est que l'homme, ni ce que c'est Dieu, mais elle explique ce qu'est le monde. Voilà pour je résume cette première double analyse, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il est bien clair que l'hébreu véhicule d'abord l'évidence du néant à partir de l'être, et c'est seulement à partir de là que dans le néant revient de l'être, okay, que les choses deviennent compréhensibles. Et c'est pourquoi sans doute que Harry a dit « da, sage » et pas « croix », parce qu'il n'est pas philosophe, il est kabbaliste. Okay. Vous avez compris le... Est-ce qu'il y a une autre question? Parce que je suis désolé, je dois sortir à un moment et je reviendrai, mais tu as la parole, David.
Je voulais vous demander la différence, c'est un sujet, la différence qu'il y a. Vous nous avez dit qu'il y avait quatre mondes, et on divisait en Yud, Ké, Vav, Ké.
Oui.
La remarque que je fais, c'est que le deuxième et le quatrième monde, c'est la même lettre.
Oui. Okay. Mais tout de suite, je te réponds, elle n'est pas écrite de la même façon dans le Sefer Torah. Vous avez remarqué que les lettres de l'alphabet hébraïque traditionnel ont des formes différentes, parfois. Ceux qui lisent sans connaître la Kabbalah savent uniquement qu'ils ne vont pas faire de faute. Et d'ailleurs, le Kahal, qui en sait encore moins, ne les laisse pas faire de faute. Vous avez remarqué dans une synagogue, si jamais il y a une faute d'un Chazal, il y a une émeute. Personne ne sait ce qui se passe, mais il se passe une émeute. Et dans le Sefer Torah, le Hé supérieur, qui réfère à Bina, et le Hé inférieur, qui réfère à à Bina, c'est-à-dire à Bria, et à Asiya, c'est-à-dire à Malchut, ne sont pas écrits de la même manière.
Et alors pourquoi ce sont deux Hé qui ont été choisis pour la Asiya et pour la Bria?
Je ne dirais pas choisis.
Non, pas choisis, je
dirais. Parce que nous verrons que Asiya correspond à Bria de la même manière que Yetzirah correspond à Tzilut. Je vous l'ai indiqué très brièvement tout à l'heure. Il y a une matkonet analogue. Or Keli, c'est Atzilut Bria. Or Keli, c'est Yetzirah Asiya.
Et le fait que le vav soit. Je crois qu'on fait un vav en faisant une miroite, je crois. C'est ça, là-bas. Le fait que ce soit demandé des tirages, l'enquête sur Atom, etc., est-ce que c'est pas un avertissement pour nous dire attention, tu peux aller de tirage à Atom, etc., en une boîte?
Oui, simplement, retiens que le mot va, c'est devant. Va, c'est devant. Et il y a le verbe extérieur, le verbe intérieur. C'est le mystère du nombre 10, en hébreu. En hébreu, vous avez un 10 intérieur au nombre 10, ce qui fait que chaque 10 c'est 20, 12 par c'est 12. J'ai parlé trop vite. Prenez les lettres de l'alphabet hébraïque. Aleph, Bet, Gimel, Zalek, He. Aleph, Bet, Gimel, Zalek, combien ça fait? Alors, je vais vous dire autrement. Écrivez Yud, Zalek, Yud, Zalek. Yud, Zalek. Vous voyez la lettre Yud, Yud, Zalek. Alors, vous avez un Yud dévoilé et un Yud intérieur qui est le Vav d'Alep qui fait 10. Pour le ventre. C'est clair, ça vient du Shlach, c'est-à-dire du Zohar. Alors, si vous voulez, très rapidement, et on ferait une petite absaka, suivre la constitution, non, tu ne vas pas écrire, vous allez visualiser, la constitution du. Que tu vas écrire quand même avec moi, mais contre vous. La constitution du Shema Vaya à partir de ce point central dont il est parlé ici. Le septième monde étant indiqué par la toute petite queue supérieure du Yud. Petite sociale Yud d'abord, Yud ensuite. Alors il y a d'abord un point, c'est le début du Yud. Et puis, le Yud apparaît. Et ce qu'il y avait dedans le Yud, vous allez retrouver le Vav et le Dalek, hein, va se déployer. Comment? Eh bien, qu'est-ce que c'est un Vav? C'est un Yud qui, du monde de la vérité, est descendu en bas dans le monde de la réalité. Vous y êtes? Alors ça fait va. C'est une chute, une descente. Okay. Et on parlera donc de simulant, des simulations, de se passer le temps, c'est pas. C'est, mais c'est ce qui était vérité. Yud descend, ça devient va. L'état originel du monde en haut s'appelle dans le récit biblique Maïm. Même Yud, même. Dès que le Yud descend, c'est en bas, dans le monde de la réalité, on a le mot « mou », le défaut, la différence. Et on prendra ces choses-là. Et alors, après le « yud » apparaît un « rab », c'est quand le « yud » descend. Alors, « mou », rab. Donc, une première expansion du « yud » par en bas, c'est le « rab ». La deuxième dimension apparaît, et c'est l'autre côté du « yud » qui s'étend, ça fait un « dalle ». Ton « rab », tu vas en faire un « dalle ». En carré. Vous avez d'abord le point présente un yud, okay. Mm-hmm. Ensuite ce yud est descendu, c'est un val. Ensuite l'autre côté du yud, ça fait dalle. Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. Ensuite le val vient dans le dalle, ça fait un premier. Mm-hmm. Et le premier est écrit avec un val sans tête. On dit qu'il est en embryon. Ensuite, il sort du sein de sa mère, ça fait le Vav, et il fait, et puis finalement, se constitue le dernier, on a eu le culot. Je schématise un peu pour ne pas donner trop de détails, et vous trouvez tout cela dans le troisième chapitre du Mishnah de Chanabri, qui explique une des explications du Zohar sur ce texte. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une descente du monde de la vérité, Yudke, dans le monde de la réalité, Yudke, Vavke. Et l'objectif, c'est la remontée du monde de la réalité, ou sa transfiguration, dans le monde de la vérité. Ça, nous le verrons à la deuxième première conférence, c'est ce qu'on appelle la restauration des mondes. Quand le Vav devient Yud. Vous comprenez? Et je vous citais simplement un verset, et on va faire une Arsaka, c'est un verset très connu et qui indique cette perspective. Ve'aya bayomahu, ihi Hashem echad, ushur echad. Et alors, la première partie du verset a été étudiée par Zohar de la manière suivante. Ve'aya bayomahu, et il arrivera en ce jour-là, quand les mondes seront restaurés. Et après, nous aurons à apprendre et pourquoi cette descente et cette remontée, à quoi ça sert. C'est ça, là, peut-être le sujet le plus important. Quel est, on verra à la fin du séminaire. La tradition de la Kabbalah comme religion, quel est l'objectif de cette dialectique dans le monde, dans le monde, un ascenseur, on l'avait regardé. Et Ce sera donc le dernier point. Il ne s'agit pas d'un jeu gratuit, comme ont pu penser certains gnostiques, que la vérité s'amuse à devenir réalité parce qu'elle s'ennuie, et alors elle devient vérité quand elle se fatigue. Mais qu'il y a un objectif à cela, que ce n'est pas le jeu démon d'un démiurge, vous comprenez le sens de mots, qu'il y a un objectif à cela. Le problème du sroute qui est acquis entre-temps, ça nous le verrons aussi, un jour on le verset, Veraya Bayomahu, et il arrivera en ce jour-là, Iyé Hachem, Iyé sera, Dieu un, et son nom sera. Alors c'est sur le mot Iyé sera, mais comment c'est écrit Iyé, Yudhe, Yudhe, Iyé. Le nom du Créateur pour ce monde-ci, c'est Yudke, Varke. Pour le monde à venir, c'est Yudke, Yudke. Ça veut dire les deux niveaux auront la même essence, la vérité et la vérité. Yudke, Yudke. Donc tout problème, c'est dans ce vave-là. C'est clair ? Et c'est la carte d'identité de notre monde. Cette chiffre, si j'ose dire, 6. Les 6 directions de l'espace et les 6 000 ans du temps. Et chaque fois que ce vave intervient, dans le Hamoudim, alors il y a un secret qui apparaît là. C'est que, je pense que j'ai suffisamment simplifié, le monde de la vérité, Mexalim Nidraim, nous est donné en réalité, Yetzira Asiya, pour que nous le retransformions en monde de vérité avec l'acquis de la réalité. Et ça, c'est la restauration.
Bon, ça reçoit le...
Mais à quel point c'est simple? Est-ce que c'est clair? Alors que vous avez des tonnes de bibliothèques de philosophie qui n'arrivent pas au commencement du problème. Mais dans le discours de la Kabbalah, parce que le discours de la Kabbalah s'appuie sur l'hébreu et pas sur le grec, alors on peut en faire de la Bible de façon simple et cohérente. Mais la première question que nous avons abordée, c'était cette difficulté de départ, hein, que l'objet de la foi serait une idée non rationnelle, naître à partir du néant. Il faut beaucoup de temps et beaucoup d'efforts pour se rendre compte à quel point ça a été transformé dans cette traduction en discours philosophique. Alors que pour les discours kabbalistes, la valeur soit que l'être précède le néant. Je réponds toujours à votre question. Alors la notion du néant peut devenir pensable, sinon compréhensible, parce que le néant reste le néant. Je vais terminer sur cette phrase, comme je dis souvent, et on lit la Bible. Et on se rend pas compte, à force de familiarité de lecture pieuse, qu'on ne comprend pas ce qu'on dit, tout simplement. Et que ça nous étrange. Et vous allez me permettre un affreux jeu de mots, mais ça me drache. Que les anges ne voulaient pas que Dieu donne la Torah aux hommes. Parce que la Torah n'appartient qu'à l'être ange. Et voilà ce qu'on dit. On dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et la terre était chaos. Et on continue. Sans se rendre compte qu'on vient de lire une énormité. Ça, c'est parce que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre, alors le résultat, c'est le cas. Et si tu as dû le créer, nous le sait. Ça veut dire, on se rend compte de ce qu'on dit. Donc, il faut le lire en hébreu. Vous voyez à quel point tous nos objets de séminaire se recoupent, finalement, que nous sommes peut-être dans un temps de réhébraïsation des Juifs. C'est important pour l'humanité entière qui lit la Bible. Parce que si on la demande aux Juifs, qu'est-ce que ça veut dire? Ils répondent en grec, on n'est pas avancé. Je vais vous demander de me permettre 5-6 minutes de temps et on revient. Ouais, si vous voulez, soit que le temps passe vite, on peut lever ça? On peut lever ça? Voilà.
On veut commencer à 10h30 le matin, ça vous demande peut-être.
Oh, moi, c'est difficile.
Ah, ça, c'est difficile.
On peut, je crois, de 11h à 1h. Et... Si vous voulez, on peut aller jusqu'à 1h15, comme ça. Mais... Alors, avant de passer à vos questions, je voulais vous avertir, on a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui, mais c'est parce que j'ai voulu devoir traduire tout le paragraphe. Alors, vous avez énormément de notions. Ne vous impressionnez pas, on va reprendre ça pas par pas. Je vous indique une référence dans le Sefer Havaou. Alors, vous allez prendre l'autre page, c'est pour la page 2 de ce texte. Et je vais traduire une phrase. Il n'y a pas de micro ? C'est l'être qui vient de l'être, Yesh me Yesh. Keli, c'est Yesh me Aïn. Okay. Et nous avons vu que ce que le texte appelle Or, présence,
avec comme illustration la lumière, c'est ce qui nous vient du Créateur et qui fait être le monde. Alors que Kelly, c'est ce que le monde est en lui-même et qui est le véhicule de la présence. C'est clair ? Bon. On a aussi appris une notion importante sur laquelle je reviendrai, c'est la différence entre le niveau de vérité et celui de réalité. On y reviendra. Yudke Vavke. Et nous allons avoir une formule tout à fait autre dans une autre, un autre discours qui est celui du Sefer HaBahir. Et je vais vous demander d'y réfléchir et de le préparer, d'ailleurs, pour voir qu'en réalité, ils disent la même chose essentiellement dans le Esraïm, Or Keli, Neetzalim, Ibrahim, que le Sefer HaBahir, dans son explication de Tohu Vavohu, que vous allez lire avec moi, prenez la page 2.
Quel? Les quatre niveaux dont vous avez parlé tout à l'heure.
Oui.
Le Yesh, Me Yesh, Yesh, Me Aïm. La séparation entre les quatre, passe à quel niveau?
Entre de rien.
Et puis troisième, quatrième, ou premier, troisième, et deuxième, quatrième.
Attendez, je vais vous répondre, mais je vais devoir vous poser une question. À quoi vous pensez?
À quoi je pense, c'est que je viens d'abord essayer de comprendre, et ensuite introduire une logique, je dirais, intérieure, c'est-à-dire que les deux premiers seraient dans un monde préexistant qui remplacerait ce qu'on a appelé le néant à partir duquel est né l'existant, et les deux autres seraient dans la nouvelle vision la création à partir de cet existant.
Très bien, c'est exact. On modifiera un petit peu le vocabulaire, c'était la raison de ma question. C'est exact. La séparation la plus importante est entre le deuxième des deux premiers et le premier des deux derniers, c'est-à-dire entre le deuxième et le troisième. Il y a là ce que le vocabulaire de la Kabbalah appelle un massach, un clivage. Et ce mot existe dans l'hébreu moderne, c'est l'écran de télévision, mais le massach. Mais nous y reviendrons, vous avez absolument raison. Et j'ajoute quelque chose qui vous fera réfléchir, ça vous explique, en tout cas dans le rite kabbaliste de la Haggadah de Pessah, pourquoi il y a certains vers des quatre qui douchent de Pessah où on dit une bracha, certains où on ne dit pas une bracha. Réfléchissez et étudiez. Oui, vous vouliez poser une question?
Justement, je peux vous demander.
Parlez plus fort.
Si le Tzimtzum, est-ce que c'est entre le premier, justement, les deux premiers, la première lettre, Yudke et Vavke, est-ce que le Tzimtzum se situe là? Parce que là, ça devient clair. Si
c'est ce que. On avait tendance à entendre de ce que nous venons d'entendre. C'est pas faux. Mais je préciserai un peu plus. Le Tzimtzum joue dans les quatre niveaux, mais surtout dans le quatrième. Est-ce que c'est plus clair? Okay. Nous verrons. En fin de compte d'analyse, que le Tzimtzum n'est réel que dans le quatrième niveau. Mais il joue dans les quatre niveaux, à des niveaux différents, bien sûr. Ça vous expliquera l'intitulé du texte que nous avons lu et le changement de vocabulaire en nuance qu'il y a eu. Même si nous n'arrivons au bout de la semaine qu'à lire ce texte-là, comme il est écrit, dans ses nuances propres, ça suffira, et toutes vos questions pourront s'y ranger. Alors retenez vos questions. Tout ce que vous avez dit est exact, mais on aura simplement à nuancer. Alors écoutez, prenez la page 2 du Sefer HaBahir, et vous allez lire avec moi, à partir de la ligne 2. Vous avez un bête qui indique un deuxième paragraphe, la deuxième ligne de la page 2. Vous y êtes? Je vais simplement vous traduire cela et j'espère, vous allez me le dire, si vous comprenez tout de suite. Dans tous les cas, vous aurez à y réfléchir par vous-même. Alors, Amar Rabbi Brachia, c'est l'enseignement de Rabbi Brachia dans ce midrash qui s'appelle le Sefer HaBahir, qui est de Rabbi Nechunia ben Akana. Amar Rabbi Brachia, Maïdirtiv, vous avez un même dalet des abréviations. Maïdirtiv, que signifie ce qu'il est écrit? Ve'aretz haïta tohu vabohu. Et la terre était kao, tohu bohu. Maïmashmar haïta, qu'est-ce que ça veut dire ce mot était? Comment je vous ai traduit au début? Et la terre était, ok? Oui, ça signifie en fait, et la terre était devenue haïta, en hébreu. Voilà la question de Rabbi Brachia. Que signifie qu'il est écrit été, haïta, mashmar, haïta. Quelle est la signification de haïta, maï mashmar haïta? C'est que va haïta. Ça veut dire qu'elle était déjà. C'était
la troisième
ligne. Là, nous sommes à la quatrième ligne, à la troisième ligne.
La troisième.
Oui. Voilà, déjà. C'est que va haïta, mashmar. Je relis depuis la deuxième ligne. Oui, je vais l'expliquer. Amar Rabbi Berachia. Rabbi Berachia a enseigné. Maïdirtiv. Vous avez une abréviation. Que signifie le fait qu'il soit écrit Gare tsaïta tohu vavohu. Et la terre était tohu et bohu. Maïm, mashmar haïta. Quelle est la signification de haïta? Mashmar, c'est signification. Mashmar, ça veut dire, cela veut dire.
Mashmar, même shin, même resh.
Même shin, même aïn.
Mashmar.
Maïm, mashmar haïta. Qu'est-ce que ça implique en français élaboré, si vous voulez? Quelle est l'implication du mot haïta? Était Shekhavar haïta. Quelle était déjà? Unai tohu. Et qu'est-ce que ça veut dire tohu? D'avoir amathe, bené Adam. C'est quelque chose qui égare les hommes. Unai bohu. Et qu'est-ce que ça veut dire bohu? Et là. Cependant, comment traduire là? Et là. C'est la troisième réponse. Okay? Tohu haïta, vehazra le bohu. Elle était tohu et elle est devenue bohu. Elle est revenue au bohu. Ou maï bohu. Et qu'est-ce que ça veut dire bohu? D'avoir chez Yeshbo mamash. C'est quelque chose où il y a une certaine effectivité. Dirtiv, bohu. Parce qu'il est écrit bohu, bet he vav, mais il faut le lire bo en lui, ou lui. Je relis. C'est clair? Non. Ça va devenir clair. C'est-à-dire que nous avons déjà une allusion à ce qui a été dit. La terre était. Elle était quoi? Elle était Tohu. Et Tohu, qu'est-ce que ça veut dire? Vous reverrez que Rashi reprend en partie cette explication dans son commentaire du mot Tohé.
Il parle d'épouvante, Rashi. Il parle de frayeur.
Ça, c'est dans la traduction en français. Ça veut dire l'égarement, a dit Rashi en vieux français, et ce mot de égarement a été traduit en français moderne dans l'idée d'épouvante. Ça veut dire, c'est vrai que l'égarement épouvante, hein? Mais égaré. Je vais vous donner un autre vocabulaire de Rabbi Chia Anassi qui éclaire un petit peu ce problème. Tohu, c'est ce qui va vers la plus grande dilution d'être, l'égarement. Hein? Ça va vers le néant. Hein? Vous avez le mot de tehom en hébreu qui signifie l'abîme, le vide absolu, pas vide de vide, mais vide de tout. L'abîme. Et le même indiquant le passage à la limite de ce dont on parle. Tohu, la limite, c'est tehom. Donc, un premier mouvement, une première dimension où ça s'égare, ça se vide. Et bohu, on nous fait lire en deux mots. Bo en lui, hu et lui. Bohu, il y a lui en lui. C'est clair? Ça veut dire que. J'explique aussi. Ça veut dire. Tohu va bohu. C'est la simultanéité de deux réalités. Une qui va vers le vide et l'autre qui va au contraire vers l'effectivité réelle de la présence. Une c'est Keli, l'autre c'est Ouf. Vous voyez le parallèle. Okay? Nous arriverons au troisième point, au troisième texte que je vous ai indiqué, qui est un texte du Rav Kook, qui reprend cela en langage plus moderne. Okay? Et nous verrons que c'est le même enseignement qui nous est donné, et c'est là que nous aborderons notre thème général de nature et morale. C'est-à-dire, le tohu, le keli, va être donné à ce que nous appelons les lois de la nature. Mais il y a le bohu qui traverse ce tohu et qui se fait présence. C'est plus clair.